Challenger, le dernier vol. Et Challenger a explosé au lancement, un peu après le lancement. Là,
73 secondes.
Ouais, une minute et quelques, c'était en janvier 1986, une histoire qui m'a fasciné ado. J'avais une fascination pour la navette spatiale. Et adulte, je pensais tout savoir. Il y a eu une commission d'enquête, etc. Et là, on revient dans le temps, on fait parler les protagonistes. Et écoute, on en apprend et on apprend à quel point il y a eu de la négligence. Tu regardes ça et t'es fâché. Tu m'avais recommandé ça et c'est une excellente recommandation. Et on va en parler avec notre ami Paul Oud, grand amateur d'aéronautique et de conquête spatiale. Salut, Paul!
Salut à vous deux!
Bonjour. Est-ce que tu as appris des choses, Paul?
Non.
OK. Je dois dire un truc. Paul nous a raconté que cette journée-là, il s'était branché, il avait réussi à obtenir le fil narratif de la NASA en piratant une antenne.
Non, je n'ai pas piraté.
C'était posé un satellite, c'est ça?
Personne ne m'a dit que j'avais piraté, mais j'avais construit sur mon terrain, c'était ma première petite maison, et c'était presque aussi gros que ma maison, j'avais installé un système avec une antenne parabolique de 12 pieds de diamètre qui me permettait de capter tous les satellites de communication qui allaient d'est en ouest. Mais personne n'est venu me dire que je piratais des signaux. J'étais le seul à avoir ça.
Mais t'as tout entendu ce qui s'est passé cette journée-là?
Ah, et vu! Et j'avais mis mon magnétoscope en marche. Donc, j'ai capté tout ça sur le vieux format bêta. Et je peux dire que peu de temps après, quand les DVD sont apparus et ensuite le numérique, je me suis empressé de conserver tout ça et je conserve tout ça encore.
Paul, rappelle-nous, là, bon, les gens ont peut-être en tête les images de la navette qui s'envole et là, une minute et des poussières après, qui explose devant les yeux, devant les regards effarés des familles qui étaient réunies. Donc, on a en tête ces images-là, mais rappelle-nous ce qui a causé l'explosion.
Ben, c'était le 51e vol d'une navette spatiale. Il n'y en avait pas beaucoup de navettes. Il y avait Challenger, il y avait la navette originale, Columbia, Discovery, plus tard Atlantis et Endeavour. Et comme l'a dit Catherine, c'est exactement 73 secondes après que Challenger eut quitté sa base de lancement à Cap Canaveral qu'elle a explosé. Et la commission qui a suivi, qui a été menée par William Rogers, qui a été le secrétaire d'État de Nixon à l'époque, mais qui a été aussi le ministre de la Justice d'Eisenhower. Donc, un politicien qui avait une longue feuille de route, et ça a brassé pendant cette commission-là, qui porte son nom, et on en est venu à la conclusion, et qui était presque un drame inévitable. Voilà une tragédie dans l'histoire, je vous le dis à vous deux, qui aurait pu être évitée à 100%. Et si on pouvait mettre ça à 150%, on pourrait aller jusque-là. Tout ça aurait pu être complètement évité. Alors, la navette, c'est quoi? C'est de la grosseur d'un DC-9. C'est pas très gros. J'ai visité Endeavour, moi, à Los Angeles. J'étais surpris comment c'était petit, la navette. Il y a un espace cargo, il y avait l'équipage en avant. Cette navette était fixée à un énorme réservoir orange qui contenait les propergols. Qu'est-ce que c'est? C'était de l'oxygène liquide, de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Et vous aviez, pour soulever cette masse incroyablement lourde, deux fusées, chacune sur le côté, blanches, qui étaient des fusées à carburant solide. Alors, c'était de la poudre, ni plus ni moins. Aucun moyen de contrôler ça. Quand ils ont opté, la NASA, pour des lanceurs, des fusées qui dégageaient 5 500 000 livres de poussée à carburant solide, il y a beaucoup de gens qui se sont tapés sur la tête. Moi, j'étais étudiant poli à ce moment-là pour dire « Quoi? Quoi? Des fusées à carburant solide. Si ça marche, ça monte et ça part. » Rappelez-vous comment ça montait vite la navette quand elle décollait. Oui. Boum! Ça partait. Ben, c'était ça. Dès le départ, Morton Thiokol, qui est une entreprise de l'Utah à Ogden, qui fabriquait ces deux fusées à carburant solide, ont commencé à remarquer des choses. Non seulement ça pétait d'un coup, il y avait aucun moyen de contrôler ça. Puis il n'y a pas de réostat qui permettait de dire, on va contrôler un petit peu.
On va le mettre moins fort, moins de torque.
Écoutez, je vais vous résumer ça en un mot, c'était un pétard. C'était deux pétards qui étaient attachés. Donc, la plus complexe structure qui a jamais été construite dans le monde de l'aéronautique et la plus dangereuse aussi. Et puis, c'était des cylindres qui embarquaient un par-dessus l'autre et on isolait les morceaux de cylindres avec du caoutchouc, très ordinaire. On appelait ça les O-rings, les anneaux en O, en forme de la lettre O. Et puis, cette journée-là, il a fait terriblement froid. Ça faisait 6 fois qu'on remettait le départ. Il devait partir le 22, ils sont décollés le 28. Et dans la nuit du 28, ça a descendu à moins 8 à Cap Canaveral. Et les ingénieurs de Morton Thiokol ont appelé la veille et ont dit, non, pas de décollage. Nos O-rings en caoutchouc sont faits jusqu'à 4, plus 4. Il a fait moins 8 dans la nuit. D'ailleurs, dans le documentaire, vous allez voir les glaçons qui pendaient après la navette le matin. Et ils ont décidé quand même de décoller.
Et ça faisait longtemps qu'on savait que ces joints d'étanchéité étaient problématiques parce que quand on récupérait les fusées, Paul, on voyait qu'ils avaient un peu brûlé. Il y avait quelque chose comme un problème là. Mais ce qui est fascinant de voir dans la série documentaire sur Challenger, c'est la pression venait d'en haut. Le politique disait, faut que ce soit rentable, ces programmes-là. La NASA voulait prouver aux politiques qu'on méritait les budgets. On va lancer deux navettes par mois. Ouais, c'était impossible.
Comme des vols aériens.
C'était impossible à faire. Ouais. Il y avait une pression pour lancer. Ils ont lancé. Et il y a plein d'ingénieurs qui disaient, ce n'est qu'une question de temps avant que ça explose.
Oui, mais il y avait un exercice de relations publiques dans cette mission-là.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Christa McAuliffe, 37 ans. Professeur à l'école secondaire à Concord, au New Hampshire, à 4 heures de Montréal seulement. D'ailleurs, je passais d'ailleurs devant son fameux high school où elle enseignait, avait été désignée par le président Reagan comme la première civile à aller dans l'espace. Et puis on disait la navette, c'est tellement sûr à la NASA qu'on pourrait envoyer n'importe qui, n'importe quand, avec un préavis de quelques mois de formation quand même. Alors la pression était tellement forte des relations publiques, puis en plus, je vous rappelle, c'était la journée du discours sur l'état de l'Union de Reagan. Donc,
C'était pas un hasard.
C'était pas un hasard. Reagan voulait annoncer ça en grande pompe le soir. Nous avons une jeune prof qui est... Et on avait déplacé 17, 18 de ses élèves dans les tribunes avec ses parents à Cap Canaveral, qui ont été témoins de cette tragédie-là. C'est vraiment effrayant quand on y pense. Ils ont tout vu ça.
Et ce qu'on voit dans le documentaire, on voit ces gens-là, premièrement, dans la foule, mais on voit aussi la réaction de certaines personnes à la NASA quand on voit la navette exploser. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus important du documentaire, c'est qu'on voit les choses. On ne fait pas que les entendre ou voir des archives, c'est qu'on est vraiment présent et on entend les familles aussi de ces gens-là.
Absolument.
Il y a tout ce côté humain-là, mais moi, Paul, ce qui m'a vraiment consterné, c'est on va appeler ça la tentative de cover-up à la NASA.
Oui,
hein.
Oui, ils ont essayé pendant la commission Rocket.
Oui, oui.
Un cover-up.
Et il y a quelques Américains, disons, plus consciencieux que d'autres là-dedans, là, qui se sont levés et qui ont fini par dire la vérité. Et Paul, parle-nous du prix Nobel qui était sa commission d'enquête.
Ben oui, Richard Feynman, qui a gagné le prix Nobel en 1965 de physique. Un des plus grands savants qui a passé dans l'histoire, et j'inclus là-dedans les fameux savants en physique nucléaire comme Robert Oppenheimer, Fermi, Einstein. Lui, là, c'était un spécialiste, c'est lui qui a découvert les quanta en physique. Il était un physicien théoricien absolument d'un quotient supérieur, mais probablement comme on n'a jamais vu. Et lui, on l'inclut sur la commission, mais il avait un côté, toi, tu l'aurais aimé, je te connais un peu, un petit côté débonnaire, là, tu sais, le petit côté baveux, le côté... Il arrivait, lui, pas de cravate à la commission, puis ces gens-là. Et à un moment donné, il a dit, « OK, je pense qu'on a un élément parce qu'on voit une plume de flamme. » Je l'avais vu en direct.
Oui.
C'est pas normal qu'il y a des flammes qui sortent de l'une des fusées à carburant solide. C'est pas normal. Et lui, il a dit, c'est peut-être un des fameux joints en caoutchouc dont tu as parlé tout à l'heure, qui avait posé problème dès le premier vol, 5 ans plus tôt. Alors, il a réussi à obtenir un morceau de caoutchouc. Il l'a tenu avec des pinces. Il l'a mis dans un bac de glace. Et le morceau de caoutchouc s'est contracté, mais n'a jamais repris sa forme d'étanchéité. Et puis là, il a dit, « Voyez, voyez, le caoutchouc, il revient pas. Il le savait la veille chez Morton Thiokol. Il y a des ingénieurs qui ont dit non, 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 non. Si ça descend trop froid, c'est descendu à moins 8. Oui. On n'a jamais vu ça en Floride. Et il dit, nous autres, on est qualifiés pour que notre morceau de caoutchouc, il tienne jusqu'à plus 4. Ils ont tout tenté chez Morton Thiokol pour convaincre les dirigeants de la NASA et les dirigeants de l'entreprise de ne pas procéder au lancement. Et Richard Feynman, le prix Nobel de physique, a montré ça avec un morceau de caoutchouc qui valait pas 10 cents.
En direct à télé.
En direct.
Et là, il y a tout le vent a changé et la commission a été obligée de s'ouvrir les yeux. Écoute, c'est une scène incroyable, une scène d'archives super
vous
bien racontée.
Vous le recommandez, là, je comprends bien. Même si c'est pas le bien appris, là, moi, je pense qu'il faut voir ce documentaire-là.
Mais voulez-vous savoir la meilleure? Moi, j'ai regardé tout ça en rafale. Il n'y a aucune erreur là-dedans. Des fois, dans les documentaires, puis je sais que Catherine aime beaucoup les documentaires, c'est un peu sa spécialité, puis dans le temps, Émilie Perrault, on parlait beaucoup de documentaires, elle aimait beaucoup ça, puis elle était très critique, elle disait, tu sais, il y a toujours des éléments, ah, ils ont pas fait ci, ils ont fait une erreur d'interprétation. De ce que j'ai vu, ma modeste opinion ce soir, il n'y a aucune erreur là-dedans. C'est l'histoire d'une tragédie qui aurait pu être 100% évitée.
Donc, on a 100%. Le saut d'approbation de Paul Oud. Merci, Paul.
Merci.
Ça s'appelle Challenger, le dernier vol, et c'est vraiment à voir.
Sur Netflix.
C'est sur Netflix, vraiment. Si vous avez des souvenirs un peu confus de l'explosion de Challenger, c'est l'occasion de replonger là-dedans.